Eh bien, il dit, c'est ce qu'il dit.
Non,
il ne, mais on l'a dit précédemment. Et pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est pas ce qui se passe au Sinaï? Parce qu'au Sinaï, le mot, c'est pas Anan, c'est Hashan. C'est Maché Wachir. Que quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui, mais on l'a dit. On l'a dit au programme précédent. Qu'il est capable de voir. Et je crois qu'il faut le relier à ce que nous avons dit tout à l'heure. Et il a gardé la capacité.
Il
voit. Pardon? Parce que s'il lui disait, est-ce que tu vois la fumée? Et que même s'il n'a pas vu, il a dit oui parce qu'il a entendu ce que c'est. Il dit, est-ce que tu vois ce que je vois? Il dit oui. On est complices. C'est autre chose.
C'est pas
Roéata,
c'est
Roéata. Mais tu parles de Nshama? Il y a des gens, il y a des gens, mais c'est un peu plus de l'Aramite. Quand la Sikdon je reviens au problème, c'est dans Rashi, c'est une autre manière de formuler ce Midrash. Am domé la Hamor. Chez vous, la Chem, pour Aïma Hamor, Am domé la Hamor. Il y a des versets qui. Le Bessar, Hamorim, Bessaram, Vezirmat, Soussim, Zirmatam. Je ne traduis pas parce que, comme vous dites, c'est dur. C'est, et ça a été dit dans les prophètes à propos de l'Égypte. Bien. C'est donc à relier à ce fait que pour accéder au degré. Il faut donc être capable de ce geste qui est Vayahavosh et Hamoru. J'ai dit trop rapidement tout à l'heure. Ça veut dire arriver à subjuguer la matière. Alors tout de suite, le Midrash va nous faire éclater ce thème de façon inouïe. Hein? Et, il y a à transfigurer la matière et ça va aller jusqu'au temps messianique, cet effort. Alors on suit le Midrash. Et chaque fois qu'un âne joue un rôle, c'est cet âne-là qui est préparé depuis la création du monde. Jusqu'à ce que le Homer soit transfiguré. Mais il y a un niveau où on est englué dans ce Homer. Ce niveau qu'on pourrait donc rappeler de nouveau comme étant la capacité de sainteté naturelle. Vous voyez à quel point il y a contradiction dans les termes. Mazé, sainteté naturelle. C'est la religion naturelle. Et ces religions où il n'y a pas de révélation de Hachem, où le nom de Hachem ne se dévoile pas. Qui, Shemi Nikra Alecha, est dit à Israël. Mon nom se révélera sur toi et pas sur les autres. Okay. Il va le dire à la fin.
Il a maîtrisé la
Il a fini, et ça y est. Oui.
Ce qui bouge.
Le mot est analogue. La Habosh et l'Ichbosh. Là, il y a un kaf, là, il y a un het. Okay? Mais c'est, non, je ne réponds pas exactement à ta question, mais c'est pour dire, c'est ce geste par lequel il faut arriver à l'ichbosh et à homer, à transfigurer la matière. Et alors là, il y a les deux stratégies. Il y a l'authenticité d'Abraham, vaya chavosh et hamoro, et il y a l'inauthenticité de Bilam, vaya chavosh et atono. Vous voyez la différence. C'est l'analyse de tout à l'heure. Alors on continue, s'il vous plaît. Alors voilà la suite de l'enseignement du Midrash. Uminaïn, chez Avadim, domine l'Ibhema. Mehacha, chez vous, la Chempo, et Mahamor, Ramahamor. On va décrypter. Et d'où savons-nous qu'un esclave, ça ressemble à une Behema, à une bête? Eh bien, d'ici, chez vous, la Chempo, et Mahamor, Ramahamor. Le peuple du Hamour. Nous avons une deuxième version du même enseignement, mais d'abord la première version. Qu'est-ce qu'il y a là? Le Eved ressemble à la Behema. Exactement. C'est-à-dire, et donc d'autonomie. Il n'est pas un sujet, il est aliéné, conditionné, déterminé par un mécanisme impersonnel. Il est comme la bête qui fait partie du paysage de la nature, et il n'est pas dans le monde de co, il est dans le monde de po.
Je trouve que ça donne à l'âne beaucoup de dignité.
Mais je pense aussi. C'est le chamor qui, on pourrait peut-être, j'ai pas l'habitude d'expliquer comme ça, mais un autre temps de culture, un autre temps de technologie, ou un autre temps de civilisation, dire c'est ce qui sert de monture à l'homme, c'est-à-dire les forces de la nature qui sont l'auxiliaire de l'homme. C'est ça le Eved. Le Eved, c'est l'auxiliaire de l'homme libre. Et c'est pourquoi le message de la Torah, c'est qu'il faut libérer les esclaves. C'est le message de Yetziat Mitzrayim, Anochi Hashem Elokecha Shorotziticha Mibet Avadim. Il faut sortir de cette avdout. Il faut devenir quelqu'un. Il faut. C'est clair? Mais oui, pour savoir qu'est-ce que ça veut. C'est exact. Je vous pose la question suivante, qui m'a toujours intrigué, mais c'est ce thème. Pourquoi fallait-il que ce soit le même homme qui fasse faire à Israël l'expérience de la sortie d'Égypte et qui donne la Torah? Après tout, ce n'est pas évident que ça devait être le même. Parce que la Torah, c'est la Torah de cela. C'est de Moïse que nous avons eu dans l'histoire l'expérience de la Géoula, mais Avdout le Hérout, et c'est de Moïse que nous avons le mode d'emploi, c'est-à-dire la Torah. Ce n'était pas évident a priori que le même homme doive être à la tête de la libération de l'Égypte et le prophète de la Torah. Vous comprenez, nous sommes habitués à cela, mais ça ne va pas de soi a priori. Et toute cette génération a buté sur cette difficulté d'admettre que l'un, c'est l'autre. Que Moïse nous faisant sortir d'Égypte et Moïse nous donnant la Torah, c'est le même. Et je vais vous citer tout de suite quel est le verset. Qui a un chumash de Shemot? Quelqu'un a un Shemot? Vous avez un chumash entier? Alors prenez le premier verset des 10 commandements dans Shemot, dans Parashat de Yitro. Anochi Hashem Elokecha, Asher Otziticha Meret Mitzrayim Ibet Ravadi. Vous voyez pourquoi, par exemple, dans la halakha, le Eved n'est pas chayav de Kriyat Shema. Le Eved ne dit pas Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le Eved est dans le monde de la Behema, c'est-à-dire de la nature, de l'aliénation. Sa volonté n'est pas libre. Il n'est pas dans le Ratzon. Il ne peut pas dire Shema Israël, Hashem Elokeinu. C'est clair en hébreu? Du point de vue de la halakha, l'explication est différente. Il ne peut pas dire Hashem Echad parce qu'il a un autre maître. Okay. Ne recommence pas avec la femme, toi.
Génération
totalitaire, il avait expliqué que justement le peuple juif était un peuple très modeste, puisqu'il sortait
d'esclavage. Alors que justement, Otam, la civilisation de Otam, sont des civilisations qui sortent directement de Dieu.
Ah oui, c'est connu, c'est familier.
C'est donc
Bilam
alors, ça.
Oui, tous les ancêtres des sociétés humaines, c'est des demi-dieux, c'est des personnages légendaires. On descend de la cuisse de Jupiter. Tandis que Israël, c'est le seul peuple qui dit, c'est nous les hommes. Nous avons été esclaves et nous sommes libres. Vous connaissez la première Mishnah de l'Agada de Pessah. Allez, on va la lire ensemble. Halachma aniad yachalu abatana barad emitzchaim, kol dirfin et tevechol, kol districh et teveifsar, achata hacha avde. Les Shana Abava Yerushalayim Ben Echorin. C'est un souhait. Hein? Alors, donnez-moi le.
Je vais vous montrer rapidement ce que Rachid cite à propos de ce thème.
Qu'il fallait qu'au Sinaï, Dieu confirme que le principe qui est intervenu pour l'expérience de la Géoula et le principe qui intervient pour révéler la Torah, c'est le même. Parce que dans l'expérience immédiate, c'est pas évident. Est-ce que c'est bien clair? Vous comprenez que c'est là qu'est l'explication de la cassure du peuple juif en deux. Ce qui se rattache que à l'expérience historique ou ce qui se rattache que à l'expérience de la révélation. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et qu'il faut unifier ces deux expériences. Voilà ce que dit Rashi. Il explique le fait que le verset ne porte pas « Ani Hashem Elokecha ». Que signifie « Ani Hashem Elokecha » ? C'est comme on traduit habituellement « Je suis Hashem ton Dieu ». Mais « Anochi » signifie autre chose. Signifie « Nous, traduisez ». S'il y avait « Ani Hashem Elokecha », ça veut dire « Je suis Hashem ton Dieu ». Proclamation de carte d'identité. Mais il y a « Anochi Hashem Elokecha ».
C'est moi qui suis.
C'est bien moi qui suis. Anochi. C'est, il confirme. Anochi Hashem Elokecha. Qu'est-ce qui se passe là dans le pshat du verset déjà avant de voir Rashi? Comment est la définition? Comment Dieu se définit pour donner la Torah? Anochi Hashem Elokecha, Asherot Seticha, Meretz Mitzrayim, Yivet Rabadi. Je suis celui qui te fait sortir d'Égypte. Mais dans quel sens? C'est bien moi qui suis celui qui te fait sortir d'Égypte. Moi qui te donne la Torah, c'est bien moi qui suis celui qui te fait sortir d'Égypte. Il fallait confirmer quelque chose. Parce que c'était pas, c'est clair, c'était pas évident a priori de le reconnaître comme étant bien celui qui a été reconnu à la sortie d'Égypte. Vous avez eu déjà cette expérience que je suis intervenu dans l'histoire pour vous libérer de l'esclavage d'Égypte, et vous me connaissez comme ça et que comme ça. Et maintenant je me révèle à vous donnant la Torah. Vous allez me dire c'est deux absolus différents. Non, je commence par vous dire, je confirme, c'est bien moi l'autre. C'est clair? Pourquoi? Parce que c'est pas évident. Vous allez voir comment Rashi l'explique. Est-ce que c'est bien clair? Mais regardez que c'est dans le pshat. Anochi Hashem Elokecha. Après, je vous citerai un chidouche. Tout à l'heure, rappelez-moi sur le mot Bet Avadim. Alors, voilà comment Rashi le dit. Et pour ceux qui ont Rashi, c'est le deuxième Rashi sur ce verset. Les filles Shenigla Bayam, Kegibor Milchama, par le fait qu'il, Dieu, s'était révélé à eux, au passage de la mer Rouge, sur la mer, Kegibor Milchama, comme un héros de guerre. Venigla Kan Kezaken Malerachamim, et ici il se révèle comme un vieillard plein de miséricorde, c'est-à-dire le rocher Shiva, le Avedin. Celui qui donne la Torah et sur la mer, l'image de Dieu intervenant pour eux, c'est le héros de guerre, Hashem Ish Milchama. Mais au Sinaï, l'image de Dieu se révélant à eux, c'est le rabbin. Vous voyez, et quel rapport entre un roche Yeshiva et un général de l'armée israélienne? Et bien voilà ce que dit Rashi, c'est la même chose. Okay. Allez, c'est clair? Vous avez compris les images? Oui. Et puisque je me change dans la manière dont je me dévoile à vous, altom rouge tereshuyot. Ne dites pas il y a deux souverainetés. Anochihu. C'est bien moi qui t'avais fait sortir de l'Égypte et du danger de la mer Rouge. Et nous revenons à Moïse. Et c'est le même homme qui va être le véhicule de cette expérience que la Géoula est possible, et d'autre part, qui donnera la Torah. Parce que la Torah de Hachem, il faut d'abord être délivré de la nature pour pouvoir accéder à la Torah. Il y a donc ceux qui ne se délivreront jamais du conditionnement de la nature et ils resteront, comme dit le Midrash, KBMA. Le kaf est important, comme si c'était... C'est la condition la plus tragique. Un homme qui ne se connaît que comme une bête. Et c'est ça le Eved, nous dit-il. Vous voyez pourquoi d'où nous étions partis? Il faut faire éclater la condition de Eved. Quel est le projet de la Torah? C'est de libérer les esclaves. Mais entendons donc à tous les niveaux, et en fin de compte, de l'aliénation à la condition naturelle et à la religion naturelle. Eh bien. On est passé de Avdout le Herout. Il y avait au changement de régime en Israël l'année dernière, il y avait une blague comme ça dans les journaux. Jusque-là, c'était Avoda, maintenant c'est Khérout. Oui, mais Avdou.
Pour devenir Eved Hashem.
Exactement. Avoda Yehem. Oui. Eved Elohim, ça c'est Behem. Eved Hashem, ça c'est Adam. Voilà, on pourra le comprendre. Bien, je vends le texte et on continue dans le miroir.
Est-ce qu'il est déjà midi?
Oui.
La doctrine de l'évolutionnisme nous dit que l'homme est un animal devenu un homme. Oui, un animal modifié. Alors que, selon la ligne de l'enseignement de la Torah, c'est l'inverse. L'animal est une créature qui n'est pas arrivée à devenir homme. Est-ce que c'est plus clair? Vous comprenez ce que je veux dire là? Ma? Mais c'est de ça qu'il est parlé, mais c'est pas allégorique. Vous savez, une bête, c'est une bête, un homme, c'est un homme. Non, non, écoutez. Non, non, je veux dire, prenons le cas des étapes dans l'embryon. Vous savez qu'une espèce dite plus évoluée qu'une autre récapitule dans son embryologie, si j'ose dire, les étapes antérieures. Bon, eh bien, le projet, c'est que la Terre produise le Nefesh Chaya, la personne vivante. La Terre n'arrive qu'à sortir l'animal. C'est-à-dire que il faut une intervention supplémentaire pour que l'identité humaine procède. Alors l'homme va récapituler toutes les étapes antérieures auxquelles il ne s'est pas arrêté. Les animaux étant ceux qui se sont arrêtés à telle ou telle ou telle ou telle étape. Okay? Alors, ce couple, les moyens en leur sens non allégoriques, réels, ce couple animal-homme, nous le retrouvons dans l'humanité. Ceux qui sont comme l'animal, mais je dis bien comme, c'est-à-dire asservis au conditionnement naturel. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, leur condition est tragique, parce que ce sont des hommes, mais qui sont comme s'ils n'étaient pas hommes. Et le paganisme, c'est cela. C'est le consentement à cette identité d'être de nature. Le consentement à cela. Hein?
C'est un sous-état.
Non, c'est l'homme de nature. C'est dans le vocabulaire précis du Midrash, quand la Gemara dit en s'adressant à Israël, « Atem kruim Adam, c'est vous qui avez été nommé homme. » Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des hommes, mais ils ne sont pas dans la catégorie Adam, ils sont dans la catégorie Ha-Adam, à l'impersonnel. Est-ce que vous voyez la différence? Ha-Adam, c'est-à-dire, nous avons cité cela une fois, quel est le message qui est donné à Abraham? Ve nibrechu becha kol mishpechot Ha-Adama, et seront bénis en toi toutes les familles de la terre. Vous voyez l'expression « Mishperot ha-Adama », on les renvoyait à la nature. On dira « Umot ha-Olam », vous voyez, les nations du monde. Tout cela est dans, ils font partie des murs de la maison. Mais la maison est habitée par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Abraham. Et alors, il fait tout ce qu'il peut pour que les figurants, si j'ose dire, deviennent quelqu'un comme lui. Et ceux qui deviennent, c'est ça, les Guérim. Ceux qui deviennent, c'est ça, les fils d'Abraham. Il y a un appel à l'universel. Il s'adresse à Eliezer et Ishmaël, c'est pas n'importe qui. Ceux qui sont arrivés jusqu'à la connaissance gnostique. Ceux qui sont arrivés jusqu'au monothéisme de l'islam. Si vous vous rappelez les analyses de tout à l'heure. Et il leur dit, ben venez avec. Papa. Alors restez là. Okay. Manque de peau. Et d'ailleurs, vous savez que les... Une minute, je vais dire une blague quand même. les Romains se sont installés dans la plaine du Pô, comme ça. Bien, qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais pourquoi le
Pen
Adam n'apparaît pas avant
lui.
Donc il y a quand même
un
changement.
Oui.
Entre
Adam
et le Pen Adam.
Très bien, très bien.
Donc je ne sais pas, moi je vois là-bas
Pen
Bonnet, quelqu'un qui bâtit
sur
cette.
On verra, demain on va étudier tout cela. C'est très bien. Effectivement, et puis le Adam, c'est la matrice d'engendrement du Ben Adam. Ça, rappelez-moi là, la question de demain, ça rentre dans le sujet de demain. Mais voilà ce que je voulais déjà expliquer. Il n'y a pas là de mépris que le Hevé de Kabehema. Il y a une plainte, il y a une élégie. Voilà ce qui est arrivé de lui. On pleure pour lui. Est-ce que c'est bien clair? Je vous ai dit souvent que j'étais frappé par cette... j'ai fait des études, il y a longtemps, mais enfin peu importe, de d'ethnologie au Musée de l'Homme. Au temps où c'était au Trocadéro. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette faculté d'anthropologie à ses débuts après la guerre. Elle est toujours là-bas. Et où j'ai eu l'honneur d'ailleurs d'avoir comme professeur, il y avait de grands professeurs, comme par exemple, j'ai entendu parler de Leroy Gourhan. Et ou bien surtout Lévi-Strauss. D'ailleurs, je me suis arrangé pour redoubler une année pour pouvoir continuer à étudier avec lui. Mais j'ai dit que j'étais. La vraie raison, c'est que l'examen était Shabbat. Mais ça, c'est pour tromper l'ennemi. Je ne suis pas le disciple de Lévi-Strauss. Ne vous trompez pas, je ne suis pas structuraliste du tout. Et surtout pas lévi-straussien. Mais je crois que l'athéisme le plus dangereux, c'est le sien. Mais en tout cas, j'ai appris sa méthode avec lui. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'étais toujours été frappé de cela au musée d'anthropologie. Pourquoi dans la civilisation contemporaine, ces hommes, ces grands professeurs, tiennent absolument à dire qu'ils sont des animaux modifiés? Toute cette espèce de proclamation d'évolutionnisme. Il y a ici un phénomène culturel inquiétant, grave. Ça veut dire ils disent d'eux-mêmes qu'ils sont des animaux. C'est dans ce midrash-là. Est-ce que c'est clair? Nous savons qu'ils sont des hommes. Et que par conséquent, leur condition est tragique. Mais voilà ce qu'ils disent. Et je vous rappelle, je l'ai raconté à Jérusalem, peut-être même ici, je ne me rappelle pas, mais c'est très significatif. Le dernier cours que j'ai eu d'un grand professeur qui s'appelait Rabot. Il était très vieux. Il prenait sa retraite et son dernier cours, je le vois encore se baladant sur la longue estrade du grand Oulam là-bas, du grand amphithéâtre. Le cours était sur la station debout. C'est-à-dire, comment expliquer ce mystère que, alors que le corps humain n'est pas du tout fabriqué pour être de station debout, nous sommes de station debout. Et là, c'était toutes les théories. Vous comprenez ce que je veux dire? Il suffit qu'on s'endorme pour qu'on tombe. Pour dire, finalement, qu'il y avait donc une force psychique qui fait que nous sommes debout. Zokef kefoufim. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Eh bien, il n'a pas dit Zokef kefoufim, oui. Or, lui, il était déjà très vieux et courbé, d'ailleurs. Et un peu cacophone. Un homme très respectable. Et alors, en fin de compte, le dernier message qu'il nous a donné avant de prendre sa retraite, c'était ça. Et moi, j'étais le petit juif de la classe. Et vraiment, j'ai eu mal de percevoir cela. Et bien, finalement, nous ne sommes que des singes modifiés. Il disait ça de lui. Alors, j'ai dit, peut-être c'est vrai pour lui. Et pourtant, je sais que c'est pas vrai pour lui. Moi, j'ai lu la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a là un phénomène culturel inquiétant. Ils tiennent absolument à dire d'eux-mêmes que ce sont des animaux modifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont rentrés dans le paysage de la nature. Ça veut dire qu'ils ont abdiqué le programme de Co. Ils sont rentrés dans Po. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est de cela. C'est ça que dénonce le Midrash. Qu'est-ce que devient Ishmaël et Eliezer? Ça. Le musée d'anthropologie. Nous sommes des animaux modifiés. Pascal était beaucoup plus grand quand il disait « roseau, mais roseau pensant ». Vous voyez, c'est à peu près le même thème. L'homme n'est qu'un roseau, mais un roseau pensant. C'est comme ça qu'il disait. Au moins, avec le roseau, on peut faire les plumes des sophrimes pour écrire la Torah.
Voilà, mais en ce moment, l'exposition sur le thème, au musée culturel sur l'origine de l'homme, en l'année. Et en gros, bon, c'est... La théorie, c'est la suivante, l'homme soit originaire de l'Australopithèque. Et l'Australopithèque, en même temps, c'est ça, il ne cherche de retrouver du côté des Afars, vers l'Éthiopie. Donc, autrement dit, la science, actuellement, au niveau de l'origine, ça, c'est, l'origine, c'est, ça se situe là, dans les Afars, l'Éthiopie. Est-ce qu'il y a...
Alors on se rapproche. Et ils vont finir, et ils vont finir par arriver en Palestine. Écoutez, je vais vous dire un secret anticipé. Est-ce que vous avez entendu parler d'un peintre sculpteur qui s'appelle Moretti? Alors, la ville de Paris lui a commandé la sculpture d'un énorme mur. Voilà, vous êtes au courant? Un énorme mur qu'il doit sculpter à l'emplacement des Halles. Il a partagé ça en deux. Et de gauche à droite, il me semble, il va raconter l'histoire de l'humanité à la manière des ethnologues. Et de droite à gauche, il va raconter Bereshit en hébreu. Les Arabes ont ce... en hébreu. Il va raconter comment la Torah raconte cela pour les faire se rencontrer à Jérusalem. Ça va être à Paris, mais... Alors, vous allez voir ça dans quelques mois, ça va être quelque chose de... C'est très drôle. Mais ça va être une stupéfaction dans... Bon, alors on avance. Ce même enseignement que le Eved est comme le Hamour, eh bien, nous l'avons déjà appris par ce premier Midrash de notre verset. Sheboulachem po Ama Hamour. Eima Hamour. Rabbanan maitin le me'acha. Mais nos maîtres, ça veut dire les Hachamim en général, l'ont enseigné d'un autre verset, Mimatan Torah, d'un verset qui a été dit au Matan Torah, c'est-à-dire sur le mont Sinaï, Shenema, Sheshet Yamim Ta'avod, Ve'asita Kol Melachtecha, Ata, Ubincha, Ubitcha, Abdecha, Ve'amatcha, Ubehemtecha, Ve'gercha, Asher Bishalecha. Ça veut dire que tant qu'on est a servi ta avod et a cité comme melachtecha, on est comme la béhéma. La béhéma est avec les travailleurs. Les travailleurs, enfin, comment dire, vous avez compris, les auxiliaires de l'homme. Que et toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et la bête, toi, ton fils et ta fille et ton serviteur et la bête, tous sont au niveau de béhéma quand on est aliéné à ce avodou. C'est clair? C'est-à-dire l'enseignement des Rabbanan est beaucoup plus large, mais c'est le même, il est beaucoup plus large que l'enseignement précédent. Pas seulement le Eved et Kabehema, tous ceux qui sont dans la condition du Eved. Et vous voyez comment procède le Midrash, en nous faisant passer de galaxie en galaxie, c'est-à-dire ça s'élargit encore. Toute l'histoire du monde, c'est pour se libérer de cette condition-là du pot de 85, et qu'on a vu tout à l'heure. On continue. Amar Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak a enseigné. Atid amakom lerachek mi be'alav. Cet endroit est destiné à s'éloigner de son maître, de son propriétaire. Comment est le verset? Vayar et amakom merachok. Il a vu l'endroit de loin. Rabbi Yitzhak dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que cet endroit s'éloignera de son propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu, il a prévu la destruction du temple. C'est clair? Il a prévu cela. Le propriétaire de l'endroit, c'est Dieu. Les Béalim de l'endroit, c'est Dieu. Il a prévu que le temple sera éloigné de son véritable propriétaire. Atid amakom, cet endroit dont on parle, Atid est destiné le rachek mi be'alav, d'être éloigné de son propriétaire. Oulaholam, à tout jamais, dit le Midrash. Talmud Lomar, non pas à tout jamais. Il y a un verset des psaumes qui nous dit Zot menuchati adehad po eshev. C'est l'endroit de ma résidence, à jamais, là je résiderai. Po. Oui. C'est-à-dire le ko deviendra, le ko qui est loin deviendra à notre portée. Quand est-ce les Recheyavo, Oto, Shekatuv, Bo, lorsque viendra celui à propos du qui il a été écrit dans Zecharia, Ani, Verochev, Alhamor, c'est-à-dire le Mashiach. Lorsque tout le processus de la subjugation du Chomer sera achevé, Alors, l'endroit ne sera pas loin, mais sera à notre portée. Bon, c'est même pas la peine d'interpréter, c'est dommage. Le Midrash est en scène pour lui-même. Bien, alors écoutez, il est déjà 1h10. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Si vous avez une question, on pourra aussi la prendre. Mais dans tous les cas, nous avons donc rendez-vous demain matin pour la dernière étude du texte sur Vayi Vayom Hashlish. Okay? Vous avez le texte, ne le perdez pas. Et puis alors, vous verrez, ce sera affiché quels sont les programmes de Shabbat. Probablement, ça se passera comme ça, c'est qu'après dîner, nous aurons une étude de la Sidra, et l'après-midi, un texte sur Pourim. Je ne sais pas encore, ça va être affiché, ils n'ont pas encore fait le programme, je sais maintenant.
Et à propos de préhistoire, j'ai lu dernièrement un passage dans Fédida où il est question d'une malade qui pas opposée à son père. Et il faisait de la préhistoire. C'est-à-dire qu'elle se situe dans un monde anticulturel.
Oui.
Et on l'écoute d'ailleurs, cette impression, dans les fréquentations des milieux archéologiques. C'est un rapport à l'anticulture.
Si vous avez un jour de
passer. Enfin, cette impression.
Ce soir, c'est un
Je vous poserai une question.
Oui.
On nous a rapporté le Rav Rami, l'autre ami.
Oui.
Bon, il fait des cours à l'école polytechnique sur le
Ensuite, si vous le voulez bien, nous passerons aux questions que vous avez à poser sur le thème du sacrifice d'Isaac. Si vous me permettez, en introduction, je voudrais très très brièvement reprendre les grandes lignes de ce séminaire. À partir de la constatation faite par la tradition juive, le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu. Eh bien, M. Léon Ashkenazi, Manitou, a développé la thèse du Rav Kalonymus Kalman à Lévi Epstein, montrant que Abraham, doué de chesed, exprimant la charité, a ligoté Isaac, expression de la rigueur. Et l'aboutissement de tout cela est Jacob, c'est-à-dire Israël. Dans un deuxième temps, l'écrivain a levé Yoshua, sur la base de l'incroyance, a défini le sacrifice d'Isaac dans l'histoire, une histoire d'homme, le père qui se prépare à sacrifier son fils, plan historique qui a une projection dans l'actualité et que l'on pourrait exprimer sous la forme d'une interrogation: au nom de quel principe le père peut-il laisser son fils se faire tuer ? Est-ce un principe d'ordre national? Reprenant le contre-pied de cette thèse, M. Philippe Soler propose une vision poétique du texte. Celui-ci, d'ailleurs, ce texte, contient en lui-même sa propre explication. Il est une vision créatrice de l'écriture que l'on retrouve similairement, parallèlement dans le judaïsme. Vision qui, sans portée d'affirmation, permet de constater que Dieu fonctionne dans le texte. Et au niveau du sacrifice d'Isaac, il y a finalement trois personnages qui interviennent: le Père, le Fils et Dieu. Monsieur David Messas, reprenant l'idée traditionnelle de la non-consommation du sacrifice, a apporté au travers d'une exégèse fondée sur le Mirtav Meliyahu, les lettres d'Eliyahu du Rav Dessler, exégèse par laquelle le sacrifice d'Isaac était nécessaire à la transfiguration du monde pour redonner, pour que ce monde retourne à un état hellénique. Si le sacrifice n'a pas eu lieu, c'est que l'humanité n'est pas en mesure de comprendre l'acte et qu'elle l'assimile au meurtre. Enfin, hier soir, M. Léon Ashkenazi a montré que l'expérience chrétienne surgit en hérésie de la tradition pharisienne dans le récit de la crucifixion. Les rédacteurs des évangiles ont perçu l'histoire d'Israël, avec une conscience chrétienne, mais dont la mentalité était radicalement païenne, cette mentalité s'illustrant parfaitement dans le récit de la Passion. Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur le déroulement de ce séminaire et je vais laisser la parole aux orateurs.
Parle des cours de Midrash. Comment ?
Oui, je vais en parler. Ouais, je parlerai ensuite après l'interprète.
Je laisse donc la parole aux orateurs dans l'ordre inverse à celui du séminaire, c'est-à-dire que M. David Messas nous parlera le premier et ajoutera ce qu'il estime nécessaire à ce qui a déjà été dit.
Alors, on m'a dit de faire en 10 minutes ce que... 5 minutes. En 5 minutes, ce que j'ai été obligé de concentrer en une heure la dernière fois. Or, une heure, c'était la concentration de 15 heures de travail, vraiment. Alors, en 5 minutes, croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile encore que pour 11 minutes. D'accord. Ce que j'ai essayé de faire au cours du travail de lundi soir, c'est de suivre la conférence de Malitou de dimanche et d'essayer, non pas d'aller plus loin, je n'ai pas cette prétention, mais d'essayer de donner un aspect, j'espère, complémentaire sur lequel nous reviendrons tout à l'heure au cours de la discussion. J'ai essayé de rester très près du texte, mais très très près du texte, dans une exégèse qui respecte même les mots, dans leur sens original et originel. De sorte que l'on puisse pas simplement rester sur le plan du symbole, mais quelquefois même sur le plan de la traduction, puisque les mots sont des mots et leur signification a une valeur fondamentale. Je suis parti, dans cette explication, de deux versets. Le premier, c'est « Ahar devarim ha'ele », après ce qui vient de se passer. Et j'ai pris l'explication de Rashi qui dit « Ahar devarim ha'ele » à cause de ce qui vient de se passer, mais Elohim nisait Abraham, Elohim a éprouvé Abraham. Qu'est-ce qui venait de se passer? Une chose tout à fait banale peut-être, mais qui a été très remarquée par le récit biblique, c'est que Abraham a déclaré la paix à Abimelech. Cette déclaration de la paix à Abimelech, qui était, enfin je ne veux pas aller raconter ça en longueur, Abimelech était celui qui est caractérisé par la Bible comme étant celui qui singe la morale dans son geste, mais pas dans son esprit. C'est celui qui respecte le légalisme, mais pas l'esprit moral. Et voilà que Abraham se rend compte, il le lui dit, et confrontation entre Abraham et Abimelech, et malgré tout, au moment de s'en séparer, Abraham lui déclare la paix quand même. « Vaichretu berit shenehem » Et ils ont déclaré la paix tous les deux. Le texte nous dit que cette déclaration de paix d'Abraham ne devait pas avoir lieu. S'il l'a faite, c'est par une certaine forme de générosité mal placée, de charité qui ne devait pas avoir lieu. C'est une paix qui n'était pas à sa place. Et c'est pourquoi il fallait éprouver Abraham, comme a dit Malitou alors, dans sa vertu de chesed, dans sa midda de chesed, parce que le monde ne peut pas se construire, vivre, survivre, s'il n'est fondé uniquement que sur l'idée d'une charité permissive qui n'est pas contrôlée par l'idée de la rigueur, c'est-à-dire de la responsabilité de l'engagement. Donc tout cela, ça va exactement en conformité avec ce que nous avons entendu dimanche. Mais le texte de Rav Dessler veut aller un petit peu plus loin, et il veut dire que lorsque l'ordre a été donné à Abraham de sacrifier son fils, ça n'a pas été simplement sur le plan du symbole, sacrifice de la Midda de Abraham, sacrifice de la vertu, non, mais c'est le sacrifice lui-même. Et il s'agit ici d'un problème de définition de la vie et de la mort. Pour aller très vite, je vous dirais que lorsque Adam a fait la première faute, le péché originel, entre guillemets, et il a été décrété contre lui la mort. Et tout ce que nous disons au cours de notre étude, c'est que dans les temps messianiques, il va y avoir une sorte de métamorphose de cette idée de mort, de cette transfiguration de l'idée de la mort, de telle sorte à ce qu'on puisse échapper à la mort biologique, pour que l'on puisse pénétrer dans le monde de l'éternité. Une éternité qui ne sera pas frappée par le néant, entre guillemets, apparent, de ce que peut être la mort biologique. Voilà le temps de l'histoire. Le temps de l'histoire, c'est pour essayer d'atteindre ce temps que mon ami a appelé pré-édénique ou anté-édénique ou tout ce que vous voulez, mais l'essentiel, c'est qu'on va revenir à Gan-Eden, mais revenir à Gan-Eden, c'est être entouré avec ses aïdiam, qu'on traduit, avec ses couronnes, ses auréoles qu'ils avaient, et qui font qu'ils ont échappé au déterminisme de la mort pour participer à l'idée d'éternité. Voilà. Donc autour de ce thème va se développer toute l'idée du sacrifice d'Isaac, et autour de ces deux versets, puisque Ve'ahaleu le'ola, c'est tu vas en faire un holocauste, comme on dirait en hébreu, mamash, un holocauste tout à fait. C'est le Rav Dessler, je parle du Rav Dessler. Et la contradiction du texte est la suivante, c'est que quand il laisse les deux enfants, Eliezer et Ishmael, il dit chez vous, lachem po imachamor, va'ani ve'anar nechad ko, ve'nishtachave, ve'nashu va'alechem. Vous allez rester tous les deux ici, par contre nous allons aller jusqu'à là-bas, on va faire le service, et nous reviendrons. Alors il y a ici une contradiction. Comment d'un côté on peut dire que c'est le sacrifice lui-même, et par ailleurs on dit qu'ils reviendront, et Rashi explique très naïvement qu'il a prophétisé, sa bouche a prophétisé, et il ne savait pas ce qu'il prophétisait, mais en réalité il n'avait pas du tout l'intention de le sacrifier, il devait revenir de tous les deux, alors où est le sacrifice? Et la réponse est très simple, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement, dans l'épreuve que nous venons de voir, de ligoter la valeur charité ou de la valeur justice pour arriver à l'idée de vérité, il fallait arriver au niveau de ce qu'on appelle le sacrifice, d'une manière générale, et ce sacrifice d'une manière particulière, parce que le Rav Dessler dit, ça s'appelle Horacha. Horacha veut dire quelque chose qui était spécifique dans le cadre de l'engendrement d'Israël, à partir du moment où ce sont les absolus, entre Abraham, Isaac et Jacob, qui sont en confrontation, et à partir desquels va se forger, comme dans un creuset, une identité juive en gestation. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait démontrer la chose suivante. Abraham, qui va expérimenter l'idée du chesed, l'idée du don, doit démontrer que au moment où on donne, et c'est ça la petite complication, au moment où on donne, on ne doit pas disparaître dans le don. Au moment où on donne, on peut soit disparaître dans le don, soit se construire par le don, mais là, ici, il y a une dialectique. Celui qui donne et qui disparaît dans le don, eh bien, il a disparu en tant qu'identité. Celui qui donne et qui croit qu'il donne quelque chose, eh bien, il va se prendre au sérieux. Toute la difficulté consiste à donner, à rester dans ce face-à-face avec Dieu, sans disparaître dans le don, mais en même temps sans se prendre au sérieux parce qu'on a donné quelque chose. C'est la dialectique que nous allons voir par la suite entre Caïn et Hevel, où Caïn a donné et il savait qu'il a donné et il est devenu meurtrier, et où Hevel a cru qu'on ne pouvait pas donner parce qu'il a disparu dans le don, et il a disparu effectivement, et on n'a pas pu engendrer le monde ni à partir de Caïn ni qu'à partir de Hevel, parce que tous les deux représentaient deux échecs. Donc il fallait trouver la définition du don mais en même temps, dans cette définition du don, retrouver l'idée de en od milevado. Ça veut dire, lorsque je donne, je réalise par le don ma construction, la construction de celui qui donne, et entre celui qui donne et celui qui reçoit, il y a une unité, voilà, le en od milevado, une unité cosmique dans laquelle se présente le créateur, la créature, et une relation entre le créateur et la créature par l'intermédiaire du don. Mais qu'est-ce qu'on peut donner de plus au monde pour pouvoir expérimenter le don total de soi? Qu'est-ce qu'il y a de plus pour Abraham pour qu'il puisse expérimenter ce don? Eh bien, c'est de donner Isaac. Isaac, c'est ce qu'il y a de plus. C'est le projet d'Abraham, c'est l'avenir d'Abraham, c'est la transmission d'Abraham, c'est sa raison d'être, c'est son être profond. Il va donner Abraham. Et en donnant Abraham, j'ai analysé beaucoup le silence. Ah pardon, il va donner Isaac, excusez-moi, mais en même temps il se donne tout en restant Abraham. Vous voyez, on a analysé le silence des trois jours, voyez, Machelichi, qui a été, on a analysé longuement la dernière fois, et on a vu que par ce don-là, il devait réaliser la Ahdout, l'unité totale entre celui qui donne et celui qui reçoit, et tous les deux restent dans un face-à-face de contact direct, et si bien que, en réalisant le sacrifice, c'est-à-dire en provoquant la mort elle-même, on doit transfigurer la mort, et en réalité, on n'aurait pas vécu une mort biologique, on aurait dépassé le stade de la mort biologique pour participer dans l'éternité, si bien que le verset qui dit « Venashuva alechem », il serait revenu quand même, même s'il y avait mort biologique. Voilà comment Rav Dessler explique. Il s'agit de dépasser l'idée de la limitation par la mort, ne pas croire que la mort est un achèvement, que la mort c'est un néant. Au contraire, la mort est un accident, la mort biologique est un accident, et que la vie, elle participe du dépassement de cette idée de mort, si bien que les versets sont tout à fait cohérents. Et si la chose ne s'est pas faite, si le sacrifice n'a pas eu lieu,